France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La montagne Noire se situe à l'extrémité du Massif central. Au lieu de la résistance pendant la dernière guerre mondiale, la montagne Noire avait accueilli en avril 1944 des corps francs composés de jeunes de la région, mais aussi de réfugiés juifs, de mineurs maghrébins, de républicains espagnols et d'autres antifascistes. Située dans le département de l'Aude, Mazamet en est sans doute la ville la plus connue parce qu'elle fut pendant 150 ans et jusqu'au milieu des années 1980 un centre industriel et commercial international de premier plan. Mazamet fut un des hauts lieux de l'industrie du délainage qui fit le renom et la fortune de la ville. Le délainage consiste à séparer la laine du cuir à partir des peaux de mouton. Mais bien entendu, tout cela a aujourd'hui disparu. Or, l'histoire de Mazamet est liée à celle des grandes luttes ouvrières. En 1985, François Maspero, homme de radio, et qui avait fondé dans sa maison d'édition une collection qui s'appelait « Voix », est parti, pour France Culture, à l'écoute de la mémoire du peuple autour de la montagne Noire. Je vous propose d'écouter ici la deuxième émission qu'il a produite pour les chemins de la connaissance.
Ouvriers paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent. Le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale pour proposer demain. La terre sera.
Je suis avec vous, Rémi Casals, devant la Bourse du Travail de Mazamet. Cette Bourse du Travail qui est un lieu symbolique, puisqu'elle a été construite en 1930, je crois, mais qu'elle est le symbole de l'union des deux syndicats à la suite de la grande grève de 1909.
C'est ça, oui.
Alors, nous pouvons entrer directement dans le hall, où se trouve une grande banderole, Volem biur al pais.
Disons, volem biur al pais.
Excusez-moi pour mon accent.
Nous voulons vivre au pays. Vivre et travailler, bien sûr, puisqu'on est dans la Bourse du Travail.
Rémi Casals, en venant ici, vous qui êtes l'historien du mouvement social de Mazamet, dans la mesure où vous avez écrit avec les ouvriers de Mazamet dans la grève et l'action directe 1909-1914, vous me montriez une photo que je voudrais que vous me décriviez.
D'autant plus volontiers que cette carte postale, c'est vraiment le point de départ de mon travail de recherche. Alors, il s'agit donc d'une photo de la Bourse du Travail de Mazamet en 1909. C'est-à-dire, c'était un autre bâtiment que celui-ci qui a été construit en 30. Au fond de l'image, on voit une cheminée avec un feu allumé et des marmites. Au premier plan, sur une table, un quartier de viande, une corbeille qui contient du pain, des couteaux, des ustensiles divers, et puis 6 personnages debout, dont un habillé en cuisinier, et une légende sur cette carte postale, Mazamet, la grève, cuisine communiste. Alors, c'est une photo qui est très riche de sens et qui a été le point de départ de mon travail. D'abord, il m'a paru évident qu'il fallait identifier les personnages, retrouver leurs descendants et faire parler ces personnes sur la grève de 1909, sur le syndicalisme, sur le mouvement ouvrier. J'ai réussi à retrouver quand même quelques vieilles personnes qui avaient fait la grève. Il y a toutes les sources classiques de l'histoire, c'est-à-dire les archives nationales, départementales, municipales, les archives privées, les archives d'entreprise, les archives du syndicat également, que j'ai retrouvées à la Bourse du Travail dans des cartons. Et puis, alors, d'autres formes de matériaux plus originaux, peut-être, d'avoir toutes ces photos. C'est un photographe qui s'appelait Bourguignon qui a fait un reportage systématique sur la grève. Enfin, parmi les documents un peu originaux aussi, tous les drapeaux syndicaux que j'ai retrouvés à la Bourse du Travail, quelquefois en mauvais état, c'est assez normal, et qui sont un assez bon document sur l'histoire ouvrière de Mazamé, sur ces divisions aussi qui ont malheureusement existé.
Cette grève de 1909, ça n'est pas la première ?
Non, tout au long du 19e siècle, on a quelques mouvements ouvriers, mais c'est surtout à partir de 1903 que le mouvement s'organise et que des syndicats sont créés. Mais du fait de la situation assez spéciale de Mazamé, ces syndicats vont se diviser. Les ouvriers de Mazamé sont en grande majorité catholiques. Et à cette époque-là, être catholique, c'était presque obligatoirement être clérical et voter à droite. Et à côté de cette majorité, il y avait une minorité toutefois, qui, soit parce qu'elle était protestante, soit parce qu'elle était socialiste, votait, elle, plus à gauche. Et les syndicats se sont divisés sur ce problème à la fois politique et religieux, peut-on dire.
Mais quand Jaurès est venu à Mazamet en 1904, il n'a pas pu parler.
Exactement. 1904, c'est donc juste au moment où les syndicats viennent de se diviser. Et Jaurès vient parler, non pas pour les syndicats, il vient faire une conférence socialiste. Et ce sont les ouvriers de droite qui viennent, parce qu'ils sont de droite et non pas parce qu'ils sont ouvriers, qui viennent l'empêcher de parler. Et cette division a duré très longtemps, elle a duré jusqu'à la grève de 1909 qui a favorisé un rapprochement entre les deux tendances. Bon, en France, et à Carmaux en particulier, Carmaux qui est situé à peine à 60 km de Mazamé, on a une situation classique, c'est-à-dire des ouvriers syndiqués combatifs et qui votent socialiste, c'est la ville de Jaurès, n'est-ce pas ? Donc ça c'est très clair, c'est très simple. Par contre, à Mazamé, on a une situation différente. J'ai pu le vérifier clairement en analysant les votes par quartier à certaines époques du début du XXe siècle, et je m'aperçois que ce sont souvent les quartiers ouvriers qui donnent le maximum de voix à la droite. Donc au niveau du vote, c'est clair, et au niveau du comportement électoral et politique en général, c'est clair aussi, puisqu'en particulier après chaque élection qui était remportée, chaque élection législative qui était remportée par le fameux baron, le baron Rey, on voyait les ouvriers, comme tous les électeurs du baron, aller au château et faire une espèce de grand repas où on sacrifiait une vache, on appelait ça manger la vache, et ils étaient très contents de la victoire de leur baron. Donc on a d'un côté cette attitude politique et d'un autre côté une attitude syndicale très combative qui se manifeste par des actes très précis pendant cette grève de 1909.
Qu'est-ce qui déclenche cette grève de 1909 ? Ce sont les conditions de travail, ce sont les salaires ?
Les revendications sont essentiellement salariales. Certaines sont payées à l'heure, d'autres sont payées aux pièces. Et notamment la catégorie la plus représentative de Mazamé, les pelleurs, sont payés au nombre de peaux qu'ils ont traitées dans la journée. 1909, bien qu'on soit à une époque de prix assez stable, il y a quand même déjà une hausse des prix des produits de consommation, et donc les ouvriers demandent une augmentation de salaire. Si vous voulez, au niveau des revendications, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une demande d'augmentation de salaire.
Elle a duré 4 mois.
Exactement, de janvier à mai 1909, c'est-à-dire essentiellement en hiver. Les conditions étaient donc particulièrement difficiles, en particulier ça a été un hiver rigoureux, il y avait de la neige. Je crois qu'on peut dire que l'action, là, a favorisé le regroupement syndical à tout niveau, hein, dans les revendications d'abord, dans l'organisation de la grève ensuite. Et là, je pense qu'il est intéressant de raconter un peu certains épisodes de cette grève qui a été véritablement exemplaire. La presse nationale a bien montré qu'en 1909, la grève de Mazamet, c'était un des phares de l'action ouvrière. Alors, il y a un comité de grève. Bon, ça, c'est pas très original. Il y a de fréquentes assemblées, des assemblées générales, des syndiqués, avec une caractéristique intéressante, c'est qu'on y parle souvent occitan. En 1909, la langue maternelle et la langue de tous les jours, c'est l'occitan. De temps en temps, ces assemblées sortent dans la rue et ça devient une manifestation avec des pancartes, avec le drapeau. Les hommes et les femmes sont en groupes séparés dans les manifestations. Ça, c'est peut-être un reste des habitudes des processions de l'Église, où aussi les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes et les femmes ne chantent pas la même chanson. Les hommes chantent l'International. Les femmes ont une chanson spéciale qu'elles appellent la chanson de la grève. On se souvient encore de cette chanson que l'on chantait pratiquement tous les jours dans la rue.
La face blême et fatiguée encore, où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige ou le froid, jusqu'aux vieillards et mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions.
Au niveau organisation aussi, il y avait des choses extrêmement intéressantes. C'est ces soupes communistes. Alors, les soupes communistes, ça veut dire tout simplement qu'on prenait le repas en commun. Il est bien sûr certain qu'il n'y a aucun rapport avec un parti communiste qui n'existait pas. Au départ, ça faisait penser un peu à l'assistance, à soupe populaire. Alors, il y avait une fierté de ne pas être assisté. Donc, certains ont hésité et puis se sont aperçus quand même que c'était tout à fait autre chose et que cela soudait surtout le mouvement syndical. Autre forme d'organisation aussi après les soupes communistes, c'est l'exode des enfants. Alors ça, c'est aussi une méthode de résistance qui était tout à fait en faveur à l'époque et qui consistait à envoyer les enfants des familles grévistes dans des villes voisines où ils étaient accueillis par des familles ouvrières.
Et ce sont plusieurs centaines d'enfants qui sont partis comme ça, par petits paquets, dans des familles de la région.
Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et là, j'ai pu en retrouver plusieurs qui ont tous ou toutes gardé un excellent souvenir de cet épisode.
Et puis très vite, il y a eu aussi l'institution de patrouilles ouvrières.
Oui, alors toujours au niveau de l'organisation ouvrière, il fallait bien sûr éviter que les usines tournent, parce que dans toute grève, il y a quand même des non-grévistes, il y a des renégats, comme on les appelle. Et donc les patrouilles se sont organisées pour empêcher les usines de tourner ou pour empêcher les charrettes chargées de balles d'aller aux usines ou d'en revenir. Il y a un épisode que tous mes témoins m'ont raconté, c'est ces femmes qui se couchaient devant les chevaux pour empêcher les charrettes d'avancer et qui n'hésitaient pas à se coucher même dans la neige. Et c'est d'autant plus remarquable que là, je fais une
digression. Ça s'est reproduit dans l'histoire, je crois, à Mazamet.
Ça s'est reproduit à Mazamet, notamment vers 1943 ou 1944, à l'époque du STO, où les femmes, à ce moment-là, se couchaient sur les rails devant les locomotives pour essayer, elles n'ont pas réussi, bien sûr, pour essayer d'empêcher les trains de partir vers l'Allemagne. Face à cette très bonne organisation gréviste, le gouvernement de Clémenceau, vous le savez, se disait lui-même le premier flic de France. Clémenceau donc a envoyé policiers, soldats, gendarmes. À un certain moment, il y avait pratiquement à Mazamet autant de forces de l'ordre que de grévistes.
Mais ces forces de l'ordre ne sont pas intervenues très très violemment.
Il y a eu quelques heurts malgré tout. Mais dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé toutefois, surtout avec les soldats.
Il y a eu les appels à la fraternisation.
Exactement.
Il y a déjà une tradition dans la région.
Oui, une tradition malheureuse, si on peut dire, puisqu'il y a eu, il y avait quelques années avant, en 1907, l'armée a tiré sur les manifestants à Narbonne. Et donc, à Mazamet, on avait encore ce souvenir, et la première pancarte que l'on brandissait dans les manifestations, c'était « Vive l'armée, nos frères de misère ».
Il y a dans votre livre une phrase fantastique, qui est la citation d'un propos d'un patron, avant la grève, qui dit... Il faut les laisser faire grève, il faut les licencier. Et ensuite, nous les soutiendrons par la charité, mais seulement par la charité. Est-ce que ça donne le ton de la position patronale ?
Il faut bien préciser que cette phrase remonte à 1887.
Ah oui.
Et qu'elle est tout à fait caractéristique de la position du patronat d'alors, c'est-à-dire... Un patronat qui n'hésite pas à faire la charité, effectivement, qui l'a fait véritablement, mais qui en même temps veut être le maître dans son usine et donc ne veut pas céder aux revendications ouvrières. Alors, au début du XXe siècle, les choses ont un peu changé, mais dans la grève de 1909, il est certain que les patrons ont opposé une intransigeance totale et que finalement, ce qui les a fait céder, puisque la grève a été une victoire, ce qui les a fait céder au bout du compte, c'est que la laine montait, le cours de la laine montait. Il fallait donc profiter de cela pour vendre de la laine. Or, pour vendre de la laine, il fallait en avoir. Il fallait donc que les usines se remettent à produire. Et donc, on peut dire un peu que la grève a fait monter les cours, puisque la grève a produit une rareté de la laine sur le marché. Les cours se sont mis à monter. Et il fallait en profiter. C'est un peu ce qui explique qu'en mai 1909, après 4 mois, les patrons ont fini par céder et cette grève a été une victoire. Ça, c'est assez surprenant, car très souvent, les grèves longues se terminent par, surtout à cette époque, par la lassitude des ouvriers qui reprennent le travail en acceptant les anciennes conditions.
Avant la victoire, il y a eu des tentatives de médiation.
Oui, il y a eu des quantités de tentatives, surtout politiques. Chaque parti politique essayant bien sûr de profiter de la grève pour s'imposer un peu, pour se montrer celui qui allait arranger les choses, celui qui allait faire reprendre le travail. Il y a eu des médiations du baron Rey qui voulait se conserver la clientèle ouvrière. Il y a eu des médiations de l'autre côté, du côté de la gauche, qui a essayé de gagner la sympathie des ouvriers.
L'ancien secrétaire de la CGT, Griffels, est venu à Mazamet et a publié ensuite une brochure sur la grève de Mazamet.
Oui, alors il ne faut pas rattacher quand même Griffels à l'un ou l'autre de ses partis, puisque lui était syndicaliste révolutionnaire, donc il venait en tant que syndicaliste. Et son action a été très positive, elle est d'ailleurs reconnue par tous les témoins que j'ai interrogés. Il a bien aidé les ouvriers mazamétains à prendre conscience qu'ils étaient capables de remporter la victoire. Il a tout à fait travaillé aussi à la réunion des syndicats qui étaient divisés.
La grève s'est donc terminée par une victoire qui a été remise en cause dans les années suivantes ou au contraire qui a été consolidée ?
Elle a été consolidée pendant un temps assez court au cours duquel le syndicat était le véritable maître de la place, on peut dire. Plus rien ne se faisait sans consulter le syndicat. Pratiquement tous les ouvriers étaient syndiqués. Ceux qui n'y tenaient pas et y étaient littéralement forcés. Et il y a ce cas curieux. J'ai retrouvé des documents qui montrent que quand certains ouvriers étaient récalcitrants pour entrer au syndicat, c'était quelquefois le patron qui leur disait « syndiquez-vous ». Car le patron avait peur qu'on fasse une grève contre les non-syndiqués. Alors, plutôt que d'avoir des ennuis, le patron disait à ses ouvriers « syndiquez-vous, on sera tranquille ». Ça, c'est assez extraordinaire. Mais ça n'a pas pu durer. Et de nouveau, la politique, cette opposition des deux partis, s'en est mêlée. Et de nouveau, il y a eu une scission un peu avant la guerre de Corse.
Chaque matin, au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils? Ils rentrent monde aux ateliers, petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le froid, jusqu'aux vieillards et mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Salut, riche heureux, ces pauvres en haillons. Salut, ce senteux qui gagne vos millions.
Nous sommes avec deux militants de la Bourse du Travail.
Jean Nègre et Odilon Nouvelle, avec qui on va un peu parler de ce qu'ils ont connu de façon plus pratique que moi, évidemment, en ce qui concerne notamment les conditions de travail et la façon dont se faisait le travail du délainage, à la fois en 1909 et beaucoup plus tard encore. Monsieur Nouvelle, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se faisait ce travail?
Bon, le délainage consiste à séparer la laine du cuir, et les peaux sont mises à tremper pendant 24 heures, puis passer à la machine qu'on appelle la sabreuse, ce qu'on appelle aussi le lavage à dos. La laine est nettoyée sur la peau elle-même. Puis les peaux sont remises à tremper 24 ou 48 heures. De là, elles sont pendues dans les étuves, où elles restent 4 ou 5 jours. Puis elles sont retirées des étuves pour être pelées. Le pelage s'effectuait à l'époque sur des bancs, manuellement. C'était un travail assez pénible. C'était fait en majorité par des femmes, mais enfin, ça pouvait aussi bien être fait par les hommes, mais c'était très pénible. Bon, dans les années 60, environ 70, ça a été remplacé par des machines, la peleuse continue, et le sabreuse aussi a été remplacé par des sabreuses continues. Disons que ça enlevait surtout la pénibilité des peleurs, mais quant aux sabreurs, la pénibilité est la même et le rendement est inférieur. Bon, ensuite, la laine séparée du cuir est séchée et emballée pour envoyer dans les filatures, et le cuir à son tour est séché aussi pour envoyer dans les mégisseries pour être tanné.
Et vous-même, quand vous avez commencé à travailler, vous avez occupé quel poste?
J'ai d'abord fait peleur à la main. Ensuite, j'ai fait le travail de maragos, qu'on appelle, qui est un travail de manœuvre. Et puis, j'ai été étuveur.
Qu'est-ce qui se passe exactement dans les étuves?
Dans les étuves, on prenait les peaux, on étendait les peaux sur des repliant sur des barres, la laine à l'intérieur. Sur deux étages, c'est-à-dire que la première rangée de barres était à peu près un mètre du sol, la deuxième à 2 mètres au-dessus. Les étuves, c'est des pièces qui sont fermées où il n'y a que juste la porte d'entrée, il n'y a pas, pour ainsi dire, pas d'aération. Et c'est la fermentation qui se produit là-dedans, les peaux étant arrosées et même quand il fait froid, on met de la chaleur pour faire. Pour activer la fermentation, disons, de la peau, c'est cette fermentation qui permet que la laine se détache du cuir.
Et donc, avec un dégagement d'odeur, et si on veut parler des conditions de travail, en plus d'être pénible, il y a ces odeurs, il y a l'humidité aussi, peut-être.
Il y a surtout l'humidité. C'est surtout une chaleur humide qu'on respire constamment dans les étuves.
Et le travail n'est pas moins pénible aujourd'hui que du temps de travailler à la main?
Pour certains postes, il est moins pénible. Par exemple, le poste de peleur est beaucoup moins pénible à la machine qu'à la main. Mais le reste, les cadences y ont augmenté. Et puis, celui qui est à une sabreuse automatique, par exemple, il fait trois fois plus de rendement. Il passe trois fois plus de peau dans les mains. Et le geste de se tourner, de prendre la peau, la mettre sur la machine, la répéter à une cadence assez accélérée, ben ça revient aussi pénible que quand il mettait la peau sur la machine, qu'il la retirait, qu'il la tournait, pendant le temps qu'il tournait la peau sur la machine, et il était là, il ne bougeait pas, il tournait la peau, mais au lieu que maintenant, il était obligé de se tourner, de reprendre la peau, se tourner en prendre une autre, et ainsi de suite. Ça devient plus fatigant, disons, en fin de journée.
La grève de 1909, elle est restée dans la mémoire des militants ouvriers d'ici?
Maintenant, elle reste, on entend très peu parler. Bon, c'est resté peut-être dans la mémoire de nos aînés, disons, mais nous, nous ne l'avons pas vécu, nous sommes arrivés après, ça fait que...
Mais Jean Nègre, lui, il en a entendu parler.
Oui, j'en ai entendu parler par mon grand-père, qui travaillait à l'usine de Cormouls, et il était sabreur. Et enfin, il m'a parlé surtout avant la grève, des conditions de travail, il m'avait parlé. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'organisation. Alors, on mettait des bassins, des pots dans des bassins, et il fallait... On ne savait jamais quand la journée se finissait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'horaire. Alors le contremaître disait, enfin c'était le maître Peleur à l'époque, il disait vous allez me sabrer ce bassin, puis il disait vous allez me sabrer celui-là. Et puis il n'avait pas d'horaire de travail fixe, il fallait faire ce que le contremaître disait. Et alors le travail était très pénible aussi. Et je me rappelle qu'il m'a eu raconté qu'il travaillait dans des sabreuses où on tirait les pots à la poigne. Je ne sais pas si tu l'as entendu ça.
Oui, oui, oui.
Et la peau ne revenait pas seule. Il fallait être costaud et la tirer à la force des bras. Mon grand-père avait des muscles comme ça. Je me rappelle, il était très costaud. Et alors, il y avait même des gars qui étaient plus fragiles que lui, qui n'arrivaient pas des fois à tirer des peaux. Il leur disait, faites-les-moi passer, moi je vais les passer, vous allez voir. C'était un gros gabarit, mon grand-père. Ça, je m'en souviens toujours, quoi. Et alors, il me racontait que c'est à ce moment-là où on a pris naissance un peu le syndicat dans l'entreprise. Ils se sont organisés, ils n'ont pas accepté toutes les conditions qu'on leur... qu'on leur imposait. Ils n'ont pas accepté ces conditions-là. Et ils se sont organisés, ils ont refusé, des fois, ils ont fait même des grèves. Mais avant de faire des grèves, même, ils se défendaient individuellement. Et mon grand-père, donc, comme il était costaud, le contremaître en avait peur, il me disait. Et alors, une fois, il l'avait menacé. Et alors, mon grand-père avait pris une barre de fer. Et il a dit, si jamais tu respectes pas les accords comme ça, verbaux, et cette barre de fer, elle va te tomber sur la tête. Ça, je me rappelle de ça.
Oui, et l'organisation dont vous parlez, là, justement, elle est partie de l'usine Cormouls en 1903.
Oui.
Et alors après, c'est des syndicats organisés qui se sont lancés plus tard dans très célèbre grève de 1909, dont aussi on vous a un peu parlé. Vous avez un souvenir d'épisode marquant, quand même, de
cette grève. Mon grand-père l'a vécu, et mon père était tout petit. Mon père a été parmi les enfants qui ont été déplacés à Castres. Alors mon père est allé vivre 3 mois dans une famille en solidarité à Castres. Et il était tellement bien à Castres qu'il ne voulait pas revenir chez lui. Parce que chez lui, ils étaient 6 frères et mon grand-père tout seul pour travailler, il tirait la ficelle. Et il a des souvenirs, mon père, il avait des souvenirs sensationnels. Et quand il a fallu qu'il revienne à Mazamé, il aurait préféré rester là-bas parce que là-bas, il avait été bien accueilli à Castres par les copains syndicalistes de Castres qu'il avait gardés pendant 3 mois. Ça, mon père me l'a toujours raconté, ça.
La grève de 1909 par rapport au syndicalisme d'aujourd'hui, est-ce que c'est une référence à laquelle on fait allusion?
En 1984, non, on n'en parle plus. Jusqu'à 68, je crois qu'on y a fait référence. Même ici, à la Bourse du Travail, on a eu rechanté le salut riche heureux, là, ces pauvres en Allion. Ça a été chanté à la Bourse du Travail jusqu'en 68, mais après, ça a été fini. Et on voyait des larmes aux yeux, quoi, sur les militants les plus anciens, quoi. Enfin, sur les travailleurs les plus vieux, quoi. On sentait que ça rappelait quelque chose.
Que de mentir l'ouvrier qui travaille, d'être payé le prix de sa sueur, d'être un peu mieux que de coucher sur la paille à son repos après son dur labeur, avoir du pain au repas sur la table, pouvoir donner ce qu'il faut aux enfants, à son repos, un peu de confortable, afin qu'il puisse travailler plus longtemps. Saluer, riche heureux, ces pauvres en haillons. Saluer, qui gagne vos millions.
Ce Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 février 1985. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
Paysans, nous sommes le grand...